La séance est ouverte au Théâtre du Vieux Colombier avec les comédiens français Loïc Corbery, Michel Favori, Laurent Natrella, Bruno Raffaelli. Janvier 1891, la censure de la pièce Thermidor. En 1889, la Troisième République a triomphé dans les urnes du mouvement factieux du général Boulanger et a célébré dans une atmosphère de satisfaction sereine le centenaire de 1789. Néanmoins, les querelles historiographiques ne cesseront jamais en France autour de l'interprétation de la Révolution. Pourquoi le grand malentendu entre révolutionnaires et catholiques? Quel lien, consubstantiel ou non, entre révolution et terreur? Et voilà qu'en janvier 1891, la Comédie française tisonne ses cendres jamais éteintes en donnant un drame de Victorien Sardou, Thermidor, qui ne présente pas sous leur meilleur visage les hommes du comité de salut public de 1794. La pièce a passé les filtres du comité de lecture du français, puis du visa de censure préventive. Des militants de gauche, menés par un vieux communard, Lissagaray, organisent un chahut de tous les diables dès la deuxième représentation. La troisième représentation va avoir lieu à la Chambre. C'est une heureuse époque où les députés, comme les journaux, se préoccupent beaucoup du théâtre, de son subventionnement, comme de sa surveillance. Les séances où sont lus des extraits des spectacles qu'il faudrait interdire sont particulièrement suivies. Mais ici, il ne s'agit pas d'affaires de mœurs. Il s'agit du statut singulier de la Comédie française, qui risque d'être mis en cause, et il s'agit des fondations idéologiques sur lesquelles est construite la Troisième République. A-t-on le droit d'en faire l'inventaire, comme va le dire le républicain Reynac? Ou bien est-elle une nouvelle orthodoxie, un bloc indivisible, comme va le soutenir Clémenceau dans un morceau de bravoure dont on a oublié que le prétexte était ce théâtre où il se rendait si souvent et qu'il prétendait pourtant censurer? La présidence sera assurée, tant bien que mal, par Charles Floquet.
France Inter, la marche de l'histoire au Vieux Colombier avec la Comédie française. Jean Lebrun.
J'ai reçu de messieurs Reynac et Fouquier une demande d'interpellation sur les mesures que le gouvernement compte prendre pour assurer à la fois l'ordre public et la liberté de l'art dramatique. Quel jour le gouvernement propose-t-il pour la discussion de cette interpellation?
À un mois. Non, tout de suite.
Pardon.
Tout de suite.
En ce moment, je n'interroge pas la Chambre. Je demande au gouvernement quel jour il propose pour la discussion de l'interpellation, monsieur le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
Le gouvernement est à la disposition de la Chambre et il est prêt à discuter tout de suite.
Non, à un mois ! À un mois ! Nous avons à travailler !
J'ai entendu demander le renvoi à un mois. Est-ce sérieux ? Et moi, je vous demande le silence. Je donne la parole à monsieur Henri Fouquier, député des Basses-Alpes.
Messieurs, des faits graves, non pas dans la réalité, mais graves par les principes qu'ils engagent, viennent de se passer ces jours derniers. Il s'agit à la fois de la liberté de l'art dramatique et des rapports du gouvernement de l'art dramatique et des rapports du gouvernement avec la Comédie française. Il s'agit d'un théâtre que quelques-uns regardent comme une institution nationale.
C'est un pouvoir public !
Messieurs, vers le milieu du mois de novembre dernier, M. Sardou, l'auteur dramatique célèbre...
Si on interrompt sur des allégations semblables, M. Sardou est un auteur dramatique célèbre, oui, la séance ne pourra pas se terminer.
Je disais donc qu'au mois de novembre dernier, M. Sardou donnait lecture au comité du Théâtre français du drame historique intitulé « Thermidor ». Le comité recevait à l'unanimité la pièce de M. Sardou. Elle entrait immédiatement en répétition. Le manuscrit de « Thermidor », dans la semaine qui suivit la réception par le comité de lecture, fut adressée à Monsieur le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui put le renvoyer à la commission d'examen, autrement dit à la censure. La pièce fut donc longuement étudiée dans les bureaux du ministère des Beaux-Arts. Aucune objection ne fut faite contre Thermidor. Monsieur le ministre des Beaux-Arts donna son visa et la pièce estampillée fut affichée et le bureau de location ouvert. La première représentation a eu lieu samedi dernier. Il y eut un très grand succès pour les trois premiers actes. Le quatrième fut discuté. Il fut discuté avec une certaine vivacité, mais j'insiste sur ce point, les objections qui se sont élevées sont restées d'ordre purement littéraire et artistique.
Oui, mais nous y avons été et nous avons été écœurés.
Je dis donc que ces objections étaient d'ordre purement littéraire et purement artistique et que, par conséquent, elles n'étaient pas de nature à intéresser l'Assemblée devant laquelle je parle.
Alors pourquoi interpellez-vous l'Assemblée ? Cette discussion n'a pas sa place ici.
C'est ce que je dis, mon cher collègue.
Bon, n'introduisez pas la censure à la tribune. Je vous prie de laisser parler l'orateur.
La presse fit à Thermidor un assez bon accueil. Cependant, trois ou quatre journaux faisant pour la première fois intervenir la question politique dans cette question d'art, déclarèrent qu'ils s'étonnaient que l'on eût laissé jouer une pièce qu'ils considéraient comme réactionnaire et anti-républicaine. On reprocha à la censure de ne pas en avoir assez interdit la représentation à la Comédie-Française, et l'on annonça, dans un certain nombre de feuilles, qu'une manifestation tumultueuse aurait lieu le lendemain. En pareil cas, annoncer le désordre, c'est le préparer.
C'est même le provoquer.
La seconde représentation de Thermidor a été, en effet, marquée par des scènes dont je ne veux pas atténuer la violence. On a sifflé pendant la pièce.
Oh.
On a interpellé les acteurs.
Oh.
On a fait mieux encore.
Oh.
On a jeté des sous aux acteurs sur le plateau du Théâtre National. Et je dois dire qu'un des acteurs a eu l'esprit assez philosophique pour ramasser les sous qu'on lui jetait et les mettre dans sa poche en disant « il n'y a pas de petits bénéfices ».
Il a raison. Mais monsieur, qu'est-ce que cela nous fait ?
Les faits qui s'étaient passés dans la soirée de lundi furent portés mardi matin au Conseil des ministres. Monsieur Bourgeois répondit qu'il avait autorisé en pleine connaissance de cause la représentation théâtrale et que le désordre qui s'était produit lui paraissait comme de peu d'importance et comme ne devant pas avoir de durée. Mais l'honorable monsieur Bourgeois a changé d'avis dans la journée.
Je rectifierai tout à l'heure les faits.
S'il vous plaît, oui.
Il n'en est pas moins vrai que cette pièce, autorisée d'abord, fut interdite mardi. On nous dit, il est vrai, qu'il ne s'agit pas d'une interdiction. On nous dit qu'il s'agit d'une suspension provisoire. Mais vous savez qu'en pareille matière, le provisoire, c'est le définitif.
Et nous espérons.
C'est vrai.
Je vous prie, messieurs, mon devoir est de maintenir la liberté de la tribune et je la maintiendrai. Veuillez faire silence.
Mardi soir, une bande fut apposée sur l'affiche et l'on annonça au public, j'espère sans malice, qu'à la place de Thermidor, on donnerait Tartuffe.
La parole est à Monsieur Legge, député de Haute-Garonne.
Si le théâtre français était le seul théâtre sur lequel on pût représenter Thermidor, vous pourriez dire que la liberté de l'art dramatique aurait été atteinte par la censure. Mais il y a à Paris une foule d'autres scènes qui eussent accepté l'œuvre de Monsieur Sardou avec empressement. Pourquoi donc choisir un théâtre subventionné pour y faire représenter une pièce qui est, quoi qu'on en dise, une longue diatribe, non pas seulement contre la terreur, mais aussi contre la révolution ?
Oh !
À la à la Porte Saint-Martin ou ailleurs, l'ouvrage eût passé sans encombre. Mais à la Comédie-Française, Thermidor a l'air d'un défi. Je dis que la place d'un tel ouvrage n'était pas à la Comédie-Française. Je dis que les subventions que nous accordons aux Beaux-Arts ne sont pas faites pour encourager des œuvres destinées à raviver les haines et à réchauffer le zèle des adversaires de la République. Tout le monde. Tout le débat est là.
Non.
Si.
Évidemment. Bon, la parole est maintenant à Monsieur le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
Messieurs, c'est le lot de ceux qui exercent la censure d'être critiqués successivement pour s'en être servi et pour ne pas en avoir usé. Il y a trois cas dans lesquels la censure peut s'exercer. Le cas où la morale publique est intéressée. Celui où il peut y avoir péril pour nos affaires extérieures. Et celui enfin où des raisons de politique intérieure peuvent déterminer une interdiction. Lorsqu'il s'agit de politique intérieure, quelle doit être, dans un gouvernement libre comme le nôtre, le rôle de la censure? Elle ne doit être préventive que dans des cas déterminés et extrêmement limités. Elle doit être préventive lorsque la pièce contient des appels ou à l'insurrection ou à la violation des lois, des appels directs au trouble public, lorsqu'il y a invitation à certains crimes ou délits. Alors, le gouvernement doit s'opposer à ce que l'œuvre soit représentée.
Ce n'est pas le cas ! Ce n'est pas le cas !
Mais lorsqu'il s'agit, au contraire, de doctrine politique quelconque, de jugements portés sur certains hommes ou certains partis. Laissez-moi parler, monsieur. Lorsqu'il s'agit de jugements passionnés, je le veux bien, injuste même, je l'admets encore, mais qui ne constituent pas des actes excitant directement à un trouble public. Lorsqu'il s'agit seulement d'opinions et de doctrines, quand bien même ces opinions et ces doctrines froisseraient nos sentiments légitimes, je ne crois pas que ce soit par mesure de censure préventive que la République puisse procéder.
Bravo !
Oui, messieurs, lorsque c'est une question d'opinion qui est en cause, le gouvernement a le devoir de laisser juger l'œuvre par le juge suprême en matière d'opinion, le public.
Il ne faut pas que le public paye pour entendre insulter ceux qui ont fondé sa liberté.
Messieurs, ces principes posés, j'ai presque terminé ma tâche. Car personne n'a soutenu que Thermidor contint un de ses appels directs au trouble public. Voilà pour quelle raison, quel que fût mon sentiment personnel, mon devoir de ministre m'a paru être de laisser représenter la pièce.
Oui.
Je n'ai pas à formuler ici une opinion littéraire sur Thermidor. Je n'ai pas à exprimer non plus sur cette pièce une opinion politique.
Mais si, pas du tout. Ce n'est pas le rôle du ministre.
Mes sentiments personnels peuvent être profondément froissés par certains passages de Thermidor, mais je ne dois pas tenir compte de ces sentiments personnels à la tribune.
Ce que vous en dites est déjà de trop.
Maintenant, y a-t-il contradiction entre ce qui s'est passé au moment où je donnais le visa de censure et ce qui s'est passé depuis? Il est arrivé ceci. Que la première représentation a eu lieu avec un premier incident peu grave. Que la seconde représentation a eu lieu avec un nouvel incident, mais celui-ci ayant une gravité déjà considérable. Le lendemain matin, nous avons délibéré sur cet incident et il ne nous a pas paru qu'il fût assez grave pour que l'interdiction fût prononcée. Mais à la suite du Conseil des ministres, Monsieur le ministre de l'Intérieur a reçu des renseignements.
Ils arrivaient à point.
Des renseignements d'après lesquels il a cru certain que le soir même, une manifestation grave, celle-là,
Les renseignements arrivent à point. À qui s'est-ce que...
Veuillez ne pas interrompre, messieurs.
S'il vous plaît, d'après ces renseignements, monsieur le ministre de l'Intérieur, et je suis tombé d'accord avec lui, jugeant que l'ordre public pouvait être sérieusement troublé, a estimé qu'il était nécessaire de suspendre des représentations qui étaient la cause de troubles et dans la salle et dans la rue.
Vous avez cédé! Vous avez cédé aux injonctions de l'extrême gauche! Vous avez gouverné pour un parti!
La parole est à monsieur Joseph Reynac, député des Basses-Alpes.
Messieurs, l'argument capital que faisaient valoir à la suite de la première représentation de Thermidor au Théâtre Français les partisans de l'interdiction reposait tout entier sur cette considération que la pièce de monsieur Sardou était jouée sur une scène subventionnée, où les comédiens de la République n'aurait le droit que de représenter des pièces d'une orthodoxie absolue.
Nous sommes encore de cet avis.
Bravo !
Je vous ai pas entendu, pardon.
Nous sommes encore de cet avis.
C'est ça, vous êtes encore de cet avis, bien. Mais je constate que cette thèse que vous avez soutenue, selon laquelle il y aurait quelque part une orthodoxie de l'histoire de la Révolution, et que le théâtre français, en représentant le drame de M. Sardou, a fait acte d'hérésie...
Mais ce n'est pas ce que nous disons.
Je constate que cette thèse... Monsieur le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts ne l'a point porté à cette tribune. Et je l'en remercie. Parce que nous serions indignes du nom de libéraux et de républicains si nous pouvions oublier nos principes de libre examen jusqu'à ériger des appréciations historiques en dogme.
Mais personne n'a dit cela !
Alors, expliquez-moi, je vous en prie, expliquez-moi si cette théorie n'est pas la vôtre. Pourquoi, n'ayant jamais protesté contre la représentation à la Comédie Française de la Charlotte Corday de Ponsard, vous protestez aujourd'hui contre la représentation du Thermidor de Sardou, hein? Alors, pourquoi, acceptant que Marat soit flétri sur une scène subventionnée, vous voulez que Robespierre soit sacro-saint?
Très bien, c'est cela, bravo!
Hey, vous ne seriez pas français sans lui!
Monsieur! Monsieur! S'il y a quelqu'un ici qui a profondément dans le cœur le culte de la Révolution française, c'est celui qui est à cette tribune. Il l'honore, il la respecte. Mais c'est précisément parce qu'il l'honore et qu'il la respecte, qu'il respecte comme le berceau même de la France moderne, qu'il ne confond pas les hommes de cœur, les patriotes incomparables qui ont fondé la liberté en France et dans le monde, et les hommes qui ont fait peser sur ce pays pendant de longs mois la plus effroyable et la plus odieuse des tyrannies. Ouais,
vous applaudissent, monsieur Reynac.
Nous sommes aussi démocrates que vous.
Veuillez garder le silence.
Bien, messieurs, je disais simplement, au moment où j'ai été interrompu, que monsieur le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts n'avait pas porté à la tribune, en réponse aux observations de monsieur Fouquier, la doctrine de la scène subventionnée. L'honorable monsieur Bourgeois s'est contenté en effet de nous dire que le gouvernement, en interdisant Thermidor, avait pris simplement une mesure d'ordre public. Eh bien, ce second moyen de défense, j'ai le regret de dire que je ne l'accepte pas plus que le précédent.
Nous l'acceptons.
Je ne l'accepte pas parce que le gouvernement qui est sur ses bancs, et que je n'ai pas cessé de soutenir de mes votes, ce gouvernement est trop fort pour qu'il ne puisse pas avoir d'autre moyen qu'une suspension brutale pour maintenir l'ordre dans une salle de spectacle contre une minorité de 25 à 30 personnes.
Ouais, bravo !
Non, 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 cela n'est pas. Vous êtes le gouvernement le plus fort qui ait peut-être existé depuis 50 ans, parce que votre force, vous la tenez tout entière de l'opinion. Vous avez triomphé de vos ennemis les plus redoutables. Vos adversaires désarment en masse et vous n'avez pas confiance en la liberté.
Bravo !
Voilà, messieurs, le premier reproche que j'adresse au gouvernement, à l'honorable monsieur Bourgeois. Mais il en est encore un autre que je dois lui adresser. En interdisant la représentation d'un drame auquel vous ne pouvez reprocher que d'avoir calomnié la terreur et d'avoir diffamé l'échafaud, je dis que le gouvernement a eu le tort de ne pas se préoccuper de l'interprétation que cette interdiction ne pouvait manquer d'avoir dans le pays tout entier et au dehors. Quoi ? Cette République,
oui,
cette République, notre République, notre République victorieuse, incontestée et par conséquent pacificatrice qui est la nôtre, cette République qui a toujours placé son orgueil à être aux yeux du monde le gouvernement de la justice et de l'humanité, c'est cette République qui se trouverait offensée dans son principe, insultée dans sa doctrine, parce que sur la scène d'un théâtre, qui est celui de Molière et de Voltaire, des comédiens se permettent de jouer ce tartuffe politique qui s'appelait Robespierre et d'y proclamer les sentiments éternels de la tolérance, de la liberté.
Voilà, monsieur, un dantonisme fin de siècle. C'est aujourd'hui la droite qui venge la mémoire de Danton contre Robespierre.
Messieurs, je dois aller jusqu'au bout de ma pensée, si vous m'en laissez l'occasion.
Oui, oui,
voilà. Celui qui insulte ici la République, ce n'est pas monsieur Sardou, montrant du doigt ses échafauds, ses prisons, ses mares de sang, cette parodie de la justice, ce despotisme d'autant plus odieux qu'il est anonyme.
Et c'est nous qui l'insultons.
Non, 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 monsieur, ce n'est pas vous. Ceux qui insultent ici la République, ce sont ceux qui haussent les épaules devant l'évocation de tant de crimes et qui voudraient faire prendre à ce pays et à l'Europe le tribunal révolutionnaire pour la Révolution. Et les hommes qui ont fait périr sur l'échafaud les plus nobles et les plus purs des républicains comme l'incarnation même de la République.
Il faut avoir le courage de blâmer la terreur.
Ce sont les ultra-terroristes qui ont fait le 9 Thermidor. C'est contre Robespierre qu'il a été fait.
Je vous accorde, messieurs, que la terreur de M. Sardou n'est pas une peinture d'une exactitude scrupuleuse. Il n'en reste pas moins ceci dans le drame qui a été joué au théâtre français que les révoltes de la pitié contre l'échafaud, contre la justice sans débat, contre l'égorgement des femmes, des vieillards, des enfants, et que ces protestations de la conscience humaine, il vous est interdit de dire, à vous du moins, les républicains, que ce sont là des injures à la République.
C'est pour cela qu'on a condamné Camille Desmoulins.
Voilà que la droite a le monopole de la République.
Non, messieurs, il n'y a pas autre chose dans ce drame que l'écho des protestations indignées de ces hommes, les amis de Danton, qui avaient été les premiers des révolutionnaires, qui étaient les véritables fondateurs de la République, et dont le nom sera éternellement honoré parmi les hommes, parce qu'ils ont élevé, au péril de leur vie, la grande voix de la pitié contre l'effroyable loi de Prairial, contre la terreur.
Ouais, ouais.
Moi qui suis d'un tempérament pacifique, j'aime mieux voir Monsieur Sardou régler le compte de Robespierre que Robespierre régler le compte de Monsieur Sardou. Liberté !
La parole, je voudrais donner la parole maintenant à Monsieur Clémenceau, député du Var.
À l'heure où nous sommes arrivés, Monsieur le Président, j'estime qu'il faut parler net et court. Messieurs, ce serait une erreur de croire, comme quelques-uns de nos collègues paraissent le penser, que le résultat de cette discussion, c'est de nous faire voter pour ou contre Danton ou Robespierre.
Très bien.
Il s'agit, à mon avis, de toute autre chose. Messieurs, il a été joué à la Comédie-Française une pièce évidemment dirigée contre la Révolution française.
Mais non ! Mais non !
Il est temps d'écarter toutes les tartufferies auxquelles on a eu recours pour dissimuler la réalité.
Tartufferies !
Assurément, on n'a pas osé faire ouvertement l'apologie de la monarchie contre la République.
Oh !
On ne pouvait pas le faire à la Comédie-Française. Alors on a pris un détour, on s'est caché derrière Danton. Depuis 3 jours, tous nos monarchistes revendiquent à l'envi la succession de Danton. J'admire, quant à moi, combien de dantonistes inattendus ont surgi tout à coup de ce côté de la chambre. Il est temps d'en finir avec ces tartufferies indignes de cette assemblée.
C'est vous le tartuffe !
Messieurs, que nous le voulions ou non, que cela nous plaise ou que cela nous choque, la Révolution française est un bloc.
Non ! C'est faux !
Un bloc dont on ne peut rien distraire parce que la vérité historique ne le permet pas. Et aujourd'hui, après 100 ans écoulés, vous arrivez gaillardement à cette tribune, monsieur Reynac, pour rajeunir cette vieille thèse d'école, de fixer souverainement ce qu'on peut accepter de la Révolution française et ce qu'on en doit retrancher. Est-ce que vous croyez qu'il dépend de la Chambre de diminuer ou d'augmenter le patrimoine de la Révolution française ? Ah, vous ne voulez pas du tribunal révolutionnaire. Vous savez cependant dans quelles circonstances il a été fait. Est-ce que vous ne savez pas où étaient les ancêtres de ces messieurs de la droite?
Ils étaient à la frontière.
Oui, mais du mauvais côté de la frontière. Ils étaient avec les Prussiens, avec les Autrichiens, et ils marchaient contre la France.
Vous vous ménagez des succès faciles.
Et ceux qui n'étaient pas avec les armées étrangères, ceux qui n'étaient pas avec Brunswick, où étaient-ils? Ils étaient dans l'insurrection vendéenne.
C'est la gloire. Ils se battaient contre des assassins.
Oui, et suivant le mot de Michelet, à l'heure où la France était aux frontières faisant face à l'ennemi, il lui plantait un poignard dans le dos. Oh. Alors, monsieur Reynac, c'est une besogne facile que de venir dire aujourd'hui à ces hommes qui ont fait la patrie, qui l'ont défendue, sauvée, grandie et agrandie. Sur tel point, à telle heure, vous avez été trop loin. Oui, il y a eu des victimes innocentes de la Révolution, et je les pleure avec vous.
Ouais, bien sûr.
Vous avez tort de rire. Quand vos ancêtres massacraient les prisonniers républicains à Machecoul, quand Joubert, le président du district, avait les poings sciés, est-ce que ce n'était pas là des victimes innocentes? Est-ce que vous n'avez pas du sang sur vous?
Oh, c'est intolérable! Ce sont des provocations véritables!
Vous savez bien que la terreur blanche a fait plus de victimes que l'autre.
Oui. Oh.
Et maintenant, si vous voulez savoir pourquoi, à la suite de cet événement sans importance, d'un mauvais drame de la Comédie française et à la Comédie française, il y a eu tant d'émotions dans Paris, et pourquoi il y a à l'heure présente tant d'émotions dans la chambre, ben, je vais vous le dire. C'est que cette admirable révolution, par qui nous sommes, n'est pas finie. C'est qu'elle dure encore. C'est que nous en sommes encore les acteurs. C'est que ce sont toujours les mêmes hommes qui se trouvent aux prises avec les mêmes ennemis. Vous êtes demeurés les mêmes, et nous n'avons pas changé. Il faut donc que la lutte dure jusqu'à ce que la victoire soit définitive. En attendant, je vous le dis bien haut, nous ne laisserons pas salir la Révolution française par quelque spéculation que ce soit. Nous ne le tolérerons pas. Et si le gouvernement n'avait pas fait son devoir, les citoyens, eux, auraient fait le leur.
Clémenceau en a fini, il sera satisfait, la Chambre a une forte majorité, 307 contre 184, interrompra le parcours à la Comédie française de Thermidor de Victorien Sardou. La pièce ne pourra poursuivre sa carrière qu'à l'étranger, notamment aux États-Unis, et ne reviendra libérée de ses chaînes que sur une scène privée, le théâtre de la Porte Saint-Martin, en 1896. La Comédie française, ce jour-là, a senti le vent du boulet. Une pétition va demander la fin de son caractère exceptionnel. La censure préventive, accusée de ne pas avoir fait son travail de moralisation politique, est aussi mise en cause. Un grand débat va la concerner en 1892. Il faudra un peu de temps encore pour qu'elle disparaisse en 1905-1906, non pas abolie formellement, mais privée peu à peu de ses ressources financières, la Chambre s'épargnant dorénavant de traiter la question du théâtre de manière frontale. Les interprètes de la Comédie française, Michel Favori, Laurent Natrella, Loïc Corbery, Bruno Raffaelli, qu'on peut applaudir, Isor Pisani-Ferry a préparé ce texte, Grégoire Roqueplot et Alexis Chevalier est à l'extrême gauche et l'extrême droite dans la salle. Jacques Sigal assurait la réalisation avec à la technique Yvan Charby, Andreas Jaffré et Gilles Manet.